Boulevard 102.1.
Marceau le midi.
C'est 22 degrés sur Québec. On est gâtés aujourd'hui avec le facteur humidex. C'est autour de 28 comme température ressentie. Alternance de soleil et nuages pour aujourd'hui. Seulement 30 % de probabilité d'averse pour aujourd'hui. Peut-être risque d'orage aussi, c'est ce qu'on nous mentionne. Maximum de 26 degrés pour ce soir. Partiellement nuageux. Encore là, un 30 % de probabilité d'averse. Minimum de 15 degrés. Pour ce qui est du week-end, samedi, plein soleil avec un maximum de 29. Dimanche, ce sera nuageux avec des probabilités d'averse à 60 % maximum de 30 degrés. Pour nous joindre en studio, 418-971-1021, 418-971-1021. Merci d'être nos yeux, nos oreilles sur la route. Si vous avez des choses à nous dire, ça fonctionne par texto.
Ce qui vient de sortir dans l'actualité, on reprend le dossier de la fillette abandonnée du côté de Montréal. La mère va demeurer détenue et devra subir une évaluation psychiatrique. Ça vient de tomber, en fait. C'est, vous savez, cette histoire-là, on a retrouvé la jeune de 3 ans en bordure d'autoroute en Ontario après 3 jours d'intense recherche. Et là, c'est confirmé, évaluation psychiatrique à l'Institut Philippe Pinel pour cette femme de 34 ans-là. Elle a écouté la tête baissée la décision du juge, donc elle doit faire avec et on a ordonné l'évaluation de l'état mental de l'accusée pour déterminer si elle peut être responsable des crimes qui lui sont reprochés et ça devrait être sur une durée de 30 jours. Pour l'instant, elle est détenue dans un établissement carcéral, je vous rappelle, depuis les événements à la mi-juin. Sinon, Mark Carney fait jaser parce que vous le savez, ça se coltaille avec Donald Trump, le président américain qui a menacé hier soir d'imposer une surtaxe de 35 % sur les produits canadiens et ça dès le 1er août. Alors, ça s'en vient très rapidement. Et là, on a annoncé qu'on convoquait le cabinet mardi prochain pour faire face à cette nouvelle menace de droits de douane. Sinon, grève du RTC, un retour graduel du service, ça c'est prévu lundi à Québec. Par contre, on est encore en négociation et du côté du RTC, on exige que ça se fasse beaucoup plus rapidement. Et on dit qu'on est disponible jour et nuit. Il faut savoir que les métrobus, ça reprend dès le matin, donc dès lundi matin. Et l'ensemble du réseau va prendre un peu plus de temps. Là, ça sera transitionnel, opérationnel à midi pour tout le réseau en entier. Et peut-être une petite revue des fermetures de route vu les inondations d'hier en Chaudière-Appalaches. En ce moment, là, la route 276 entre Saint-Odilon-de-Cranbourne et Lac-Etchemin, c'est toujours fermé. La route 277 entre la route des Sommets et la 2e avenue, toujours au Lac-Etchemin, c'est fermé. Et circuler en alternance sur la 273 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville.
Merci beaucoup. Parlant du président américain Donald Trump que tu nous mentionnais tantôt, bon, vous le savez, Donald Trump qui a ciblé encore une fois le Canada en imposant 35 % de surtaxe à partir du 1er août, l'un des taux les plus élevés annoncés depuis le début de la semaine. On dit que Donald Trump accuse Ottawa d'avoir riposté à ses droits de douane. Donald Trump est fâché. On met des tarifs, on enlève les tarifs. On met des tarifs, on enlève les tarifs, on diminue les tarifs, on augmente les tarifs, ça finit plus. Ben au moins, ça nous permet de jaser avec Victor Henriquez, qui est analyste politique. Salut Victor!
Salut Yannick!
Ça finit plus! Ça finit plus! On met des tarifs, on enlève des tarifs, on met des tarifs, on
c'est
enlève des tarifs.
C'est un bras de fer, gauche-droite.
Puis, en vous rappelant, tout le monde, là, que Donald Trump avait dit « Ouais, il y a beaucoup d'immigration illégale là, qui transite du Canada vers les États-Unis. Il y a beaucoup de fentanyl qui transite du Canada vers les États-Unis. » Alors que c'était de la merde, cette information-là. Et c'est la raison pour laquelle il voulait nous imposer des tarifs. Ça finit plus! Ça finit plus!
Moi, je reviens de vacances, j'avais comme besoin d'un congé. Il me semblait que j'aurais pris une couple de semaines de plus sans entendre parler de Donald Trump, honnêtement. Mais je suis vraiment content de vous retrouver, par exemple. Ça fait toujours plaisir. Oui, tu parlais du fentanyl, parce que dans la lettre, on le rappelle, hein, Donald Trump a publié une lettre hier qu'il a envoyée à Mark Carney pour lui dire « Je vous menace de mettre 35 % de droits de douane à cause du fentanyl, d'abord. » Je vous rappelle que 97 % du fentanyl qui rentre aux États-Unis rentre par le Mexique, 0,07 % rentre par le Canada. Quel gros problème important de priorité nationale pour les États-Unis. À cause du fait que le Canada aurait rien fait, bon, ça, vous avez tous entendu parler des mesures qui ont été prises. À un moment donné, il va falloir se dire à quel point ça sert d'investir là-dessus des milliards de dollars si finalement on s'est imposé les droits de douane quand même. Et à cause notamment de la gestion de l'offre, parce que aux États-Unis, vous le savez, les gens sont très irrités de cette gestion de l'offre, ils ne la comprennent pas, et le président Trump, dans sa lettre, dit que les producteurs de lait américains sont imposés jusqu'à 400% de droits de douane. Il faut savoir que le maximum qui pourrait être atteint, c'est 315%, et ça n'a jamais été atteint. En réalité, jamais les producteurs américains n'ont eu à payer ces droits de douane, qui sont pour des quotas au-dessus de ce qui a été établi dans l'accord de libre-échange. Donc, une lettre bourrée de fausseté, avec un homme qui a réutilisé les tarifs après le 4 juillet pour menacer la planète au complet. Clairement, Donald Trump manque d'attention. Puis honnêtement, il va falloir, on le répète souvent, mais là, à un moment donné, il faut le faire. Il va falloir arrêter de donner de l'attention à cet homme-là qui a décidé de jouer avec l'économie comme on joue avec un yo-yo. Et il faut que les gouvernements soient concentrés sur leurs priorités, leurs actions, parce que si on vit à la remorque de cet homme-là pour les 4 prochaines années, ben, l'économie va partir en vrille, c'est garanti.
Mais vas-y, Yannick.
Mark Carney avait décidé, parce que Donald Trump n'était pas content, là, parce qu'on imposait des taxes aux géants numériques, Mark Carney avait décidé de l'enlever, cette fameuse taxe-là. Je pensais que ça allait faciliter les discussions avec Donald Trump, mais le grand orange est difficile à convaincre.
En réalité, il y a toujours quelque chose de nouveau qui lui arrive, hein, parce que il faut se dire une chose, hein, parce que les gens qui sont aux États-Unis en ce moment sont pas malheureux de tout ça parce que les conséquences sont pas encore arrivées. Vous savez, Donald Trump, il parle de déficit commercial, il dit que les États-Unis sont en déficit commercial avec le Canada de plusieurs centaines de milliards. La réalité, c'est que il y a un déficit sur les biens d'environ 100 milliards, mais qui est 100% provoqué par l'importation de pétrole de l'Alberta, qui est raffiné aux États-Unis. Au niveau des services, on est 12 milliards en déficit au Canada, donc il y a 12 milliards de services de plus utilisés au Canada qu'aux États-Unis. Donc, tout ça est basé sur des faussetés, mais la réalité, c'est que cet homme-là a toujours une nouvelle raison de menacer avec des tarifs. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a le 1er août comme date limite, on est au 10 ou 11 juillet aujourd'hui, et là, les 20 prochains jours, lui, il s'attend à ce que le Canada déroule le tapis rouge pour trouver une façon de négocier de nouvelles mesures ou des mesures moins pires. Alors, c'est ça qui arrive à chaque fois. Il fait ça avec tous les pays parce qu'il est en mode négociation. C'est un closer de deal. Et la réalité, c'est que dans plusieurs cas, ça fonctionne parce que, notamment, tu parlais de la taxe sur les produits numériques qui était là pour essayer de s'assurer que les GAFAM payent leur juste part au Canada. Ben, il obtient quand même des gains. Donc, quand il s'en revient vers sa population, il dit à ses gens, hey, regardez ce que j'ai gagné. Ultimement, t'as rien perdu et tu fais juste gagner. Donc, de son côté de la frontière, cette game-là fonctionne. De l'autre côté, moi, je commence à être tanné de perdre.
Bien, je pense qu'aussi à l'international, les communications, puis de se rendre compte de Jean-Pierre qui criait au loup, ça va faire son temps. On est encore au début. Il y a d'autres choses perturbantes. Moi, j'ai trouvé ça perturbant de voir le compte officiel de la Maison-Blanche hier publier des photos de Donald Trump en montage, comme quoi c'est Superman. C'est de l'intelligence artificielle. Quelqu'un a fait ça. Donald Trump a mis ça sur... Non. Le compte officiel de la Maison-Blanche qui est suivi par des millions de personnes qui habituellement propose beaucoup plus une vue politique et sérieuse. Il y a quelque chose qui est en train de se dérégler que je ne saisis pas.
Moi, je te remercie, Pascal, d'avoir publié rapidement parce que c'est sur ton compte Instagram que j'ai vu ça, avant de le voir sur le compte de la Maison-Blanche. C'est démonstratif d'un élément hyper important. Pour Donald Trump, les institutions ne valent plus rien. Et c'est une tendance qu'on voit. C'est au niveau international, il y a plusieurs spécialistes qui sont penchés là-dessus. La valeur des institutions, ce que nous, on connaît, quand on dit le compte officiel de la Maison-Blanche, c'est fait pour parler de choses sérieuses. Le compte officiel, par exemple, d'un gouvernement est là pour nous informer. Les bases qu'on a établies d'une communication sensible des gouvernements vers le public sont en train de changer parce que cet homme-là, pour lui, les institutions lui appartiennent. La Maison-Blanche, c'est chez eux. C'est sa maison. C'est pas l'institution qu'il voit. C'est sa maison à lui. Alors, il se trouve bien drôle quand il publie une affiche de Superman où est-ce qu'il se transforme en Superman. D'abord, ça nous démontre à quel point cet homme-là se prend pas pour du 7-up flat, comme on dit. Mais aussi le fait que pour lui, tout ça est une grande mascarade qui n'a pour objectif que de nourrir son désir de pouvoir, son désir de contrôle. Et la réalité, c'est que c'est aussi son désir d'imposer sur l'Amérique une façon de penser qui est la sienne et celle de ses collaborateurs. Alors, oublions les institutions puis la façon que nous, on regarde les choses. Et c'est là qu'il va falloir se protéger parce que ça peut arriver à n'importe quel pays. Et les institutions sont souvent celles qui ont protégé les 50, 60, 75 dernières années, ont protégé la planète de nombreuses guerres qu'on a vues et des choses comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit autant d'instabilité quand les institutions sont mises en péril.
Mais en même temps, là, la photo de Trump qui est un peu déguisé en Superman et tout ça, c'est son entreprise a été basée sur lui-même, à son image. Si tu passes à côté des hôtels Trump, il y a toujours des boutiques avec des tasses à café
de
Donald Trump et tout ça.
Puis,
mais son modèle d'affaires était comme ça, puis je m'attendais à ce que son prochain mandat soit effectivement un peu comme ça aussi, parce qu'il veut laisser un certain legs, il veut laisser une certaine image de lui-même. C'est quelqu'un qui s'aime énormément. Il y a un peu de narcissisme,
mais écoute,
j'imagine,
il a été élu,
au travers
Yannick,
de tout ça.
On n'a pas le choix de faire avec.
Mais il
a été élu.
C'est
mais
ça.
La
Après
façon
ça, ça va finir.
De bousculer la politique actuellement va laisser des impacts importants. Il va y avoir des conséquences à tout ça, autant dans les relations internationales que dans la façon dont on va faire de la politique, que la manière que les gens vont percevoir aussi c'est quoi un président des États-Unis, c'est quoi un président d'une aussi grande étendue de terre, d'une économie mondiale. Moi, c'est là où ça vient un petit peu plus mériter. Là. Ça me pique comme de l'urticaire.
J'aime ce que tu dis, Pascal, parce que c'est la grande réflexion des prochaines années. Puis nous, comme Canadiens, on est très influencés par ce qui se passe aux États-Unis. Moi, j'ai passé mes vacances en Europe, puis je vous jure qu'on n'entend pas les mêmes choses. Les gens sont préoccupés de ce qui se passe avec les États-Unis, mais ils sont beaucoup plus loin, donc ça affecte pas leur quotidien autant qu'ici. Et c'est pas la même influence. Mais la réalité, c'est que oui, ça va influencer la façon de faire de la politique, la façon de communiquer, la façon d'utiliser les réseaux sociaux aussi. Et il va falloir se poser la question, nous, qu'est-ce qu'on veut comme citoyens? Qu'est-ce qu'on veut de nos politiciens? Parce qu'on a beaucoup parlé de proximité. On a beaucoup parlé de cette époque où, à travers les réseaux sociaux, on voulait des politiciens qui soient sympathiques. On se rappelle de Jack Layton, qui était, pour moi, le premier politicien de l'ère. Je vote pour ceux avec qui j'ai goût de prendre une bière. Il y a eu une vague orange parce que le gars était sympathique, on voulait prendre une bière avec. Moi, je me rappelle aussi d'une époque où on votait pour les politiciens parce qu'on les trouvait plus compétents les uns que les autres. Une époque lointaine, disons-le aussi. Alors, est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'on va aller vers la compétence? Est-ce qu'on veut des gens qui sont spécialisés, qui sont experts? Est-ce qu'on veut des gens qui sont sympathiques? Est-ce qu'on veut des gens qui ont une expérience de vie? Je pense à François Legault, qui, rappelons-le, en 2018, avait amené sur la table, je suis un homme d'affaires, je suis un gars de gestion, nous, on va avoir un gouvernement de bons gestionnaires. On se parlera après de ce qui se passe sur ce niveau-là. Mais ça va être ça aussi les prochaines années. On a une élection provinciale dans un an et quelques mois qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on va choisir? Il y a une partielle dans Arthabasca. Pourquoi les gens vont voter? Est-ce qu'ils votent pour de la proximité? Est-ce qu'ils votent pour du populisme ou est-ce qu'ils votent pour de la compétence?
Depuis des décennies, mais en fait, depuis 2006, tiens, que je fais de la radio, puis quand je jase avec mes chums de gars, mes chums de filles, je leur demande, tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous pousse à aller voter, puis pour qui vous allez voter? Puis ils me disent tout, ben la politique, on va aller voter pour le moins pire. Alors qu'on devrait tellement voter pour le meilleur.
Mais on laisse-tu de la place au meilleur?
Celui qu'on adule, celui qu'on se dit tabarouette, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, elle a de l'air en avoir dedans, puis pendant sa campagne électorale, on n'a pas l'impression qu'elle nous ment. Puis une fois rendue au pouvoir, ben, elle ne fera pas le contraire de ce qu'elle a dit pendant la campagne électorale. Je parlais avec Alex Boissonneau avant hier, puis Alex Boissonneau s'est dit de droite économique, alors que pour avoir été un auditeur d'Alex Boissonneau, il n'a jamais démontré quelconque communication qui pouvait nous laisser présager que ce gars-là était de droite économique. Puis il me disait, en vieillissant, on change et tout ça. Puis là, je lui ai rappelé ce que François Legault nous faisait pendant qu'il était en campagne électorale, alors qu'il n'était pas au pouvoir. Il faisait des promesses de droite économique, puis par la suite, quand il a pris le pouvoir, ben, il était un peu plus centre-gauche. Fait que j'avais l'impression qu'Alex Boissonneau est en train un peu de nous faire à peu près le même ce que François Legault nous avait fait à l'époque. Hey, je veux t'amener sur la CAQ, Victor Henriquez. Ça va pas super bien à la CAQ, entre autres avec le fameux scandale Saclic. J'ai des extraits à te faire entendre. Geneviève Guilbeault qui décide de congédier Éric Duchamp parce que, selon elle, ça ne va pas pantoute. Effectivement, il était temps qu'elle allume. Et là, on a mis en place Annie Lafond. Je te fais entendre deux extraits.
Vous avez nommé M. Ducharme. Vous étiez ministre lors des deux derniers avenants. Vous étiez là lors de certains contrats satellites. Vous étiez en place pendant la gestion de crise des deux dernières années. Quelle part de responsabilité prenez-vous?
Mais les contrats auxquels vous faites référence... Il faut faire la différence entre la commission Galland. C'est parce qu'il faut être précis,
Monsieur
Lachance, vous le savez.
On n'a pas l'impression que vous prenez une part de cette responsabilité-là, mais vous avez nommé M. Ducharme. Vous venez de le renvoyer, mais c'est vous qui l'avez nommé.
Ça ne peut pas être toujours le ministre, là, ou la ministre des Transports, ou les autres ministres, ou le gouvernement. Alors, ma part de responsabilité, c'est d'être extrêmement présente hebdomadairement auprès de la SAAC pour contrôler puis améliorer ce qu'on peut. Mais ultimement, ma responsabilité, puis c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de changer la personne si ça ne fonctionne pas.
Geneviève Guilbeault, c'est pas une fille qui étudie en comptabilité, c'est pas une fille qui étudie en économie, c'est une fille qui étudie en communication. Faire passer le message, et cette réponse-là est juste épouvantable. Elle dit que sa responsabilité, c'est d'être très présente. Imagine-toi, Victor Henriquez, si tu disais ça à ton boss. Ton boss, il te donne des tâches, là. Puis là, à la fin de ton année, t'es sous analyse, puis là, on se rend compte que tout ce qu'on t'avait demandé durant l'année, ça, tu l'as pas eu pantoute, mais toi, tu réponds « Ouais, mais j'étais là très souvent. »
J'imagine la face de mes clients, si je leur répondais ça, je me retrouverais...
C'est fini.
Job assez vite, merci.
Exact, c'est fini.
Ben, tu sais, moi, quand je dis une entrevue, c'est un dialogue, puis c'est une joute. Hein. On parle souvent de la joute oratoire. Ici, les questions sont venues coincer la ministre. Puis la ministre n'a pas bien paru pour une raison très simple. Et c'est l'enjeu de cette situation-là à ce moment-ci. Moi, si j'avais à conseiller Geneviève Guilbeault, je dirais, il y a une part de responsabilité que vous devez absolument prendre avant d'essayer de convaincre les gens que vous êtes la bonne personne pour continuer. La réalité, c'est que sur Éric Ducharme, il a été choisi sur une base qui était celle de on veut réparer la réputation de la SAC au niveau des files d'attente. Rappelez-vous, devant les bureaux de la SAC, les gens avaient plus de service, puis ça clique, ça fonctionnait pas. Cherchaient un gestionnaire. À ce moment-là, on leur a recommandé un gestionnaire comme Éric Ducharme. Sur cette partie-là, il a fait la job. Le problème qu'il y a, c'est que M. Ducharme est un très piètre communicateur. Et en plus de ça, M. Ducharme semblait être plus ou moins intéressé par les questions des vérificateurs généraux. Deux éléments essentiels dans le scandale Saclic à ce moment-ci. Donc, deux ans plus tard, c'est plus la bonne personne. Est-ce qu'il a fait certaines bonnes choses? Ça reste que pendant un an et demi, il semblait avoir fait une job potable. À ce moment-ci, le gouvernement a besoin d'autre chose. Ça, ça se dit, ça s'explique au public. De dire, regardez, on s'est trompé sur un volet, on s'est pas trompé sur l'autre, mais on s'est trompé sur une partie de l'évaluation. Puis là, l'important, c'est d'agir rapidement. Et je recommande à la ministre d'aller là, parce que si la ministre veut nous convaincre qu'elle n'a aucune responsabilité là-dedans, que c'est pas toujours la faute du gouvernement, ben là, elle a absolument aucune chance. Parce que toi et moi, Yannick et Pascal, on n'a absolument aucun pouvoir pour décider ce qui se passe à la SAQ. C'est le gouvernement qui décide de ça. C'est le gouvernement qui décide de qui il place. C'est le gouvernement qui décide du conseil d'administration. Et ensuite, la boîte doit gérer. Donc, s'il se passe quelque chose de mauvais à la SAQ, c'est la responsabilité du gouvernement d'agir. Et c'est ça qu'on veut entendre de la part des ministres. Qu'on parle de se responsabiliser, qu'on parlait justement de choisir nos politiciens sur autre chose que des promesses. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'imputabilité. Il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables, qui s'ils font pas leur job, ils payent pour leur responsabilité.
Exactement. Mais moi, Victor,
à juste niveau, et ça inclut les ministres.
Ouais, Victor, moi, j'entends de la panique à la CAQ parce que tu sais comment ça fonctionne en politique. Tu sais, tu as travaillé en politique pendant des années. Tout est préparé d'avance avant les points de presse ou pendant les conférences de presse. Les questions qui sont susceptibles d'être posées à la vice-première ministre du Québec, voici ce qu'on va vous poser, voici ce qu'on va vous demander. Puis les réponses sont un peu planifiées d'avance avec l'équipe de com. Et visiblement, ça semble pas se faire actuellement à la CAQ, ce qui me laisse dire que oui, on est en vacances, mais il y a beaucoup de gens de com qui quittent le bateau parce qu'ils se disent, dans un an et demi, on n'aura plus de job, on va être aussi bien de se trouver une job tout de suite, je suis tanné d'être ici, ça va pas, il n'y a rien qui va. J'ai quelqu'un de proche de moi qui travaillait pour la CAQ qui, dans les derniers mois, a décidé tout simplement de changer de domaine, elle n'est plus en politique, puis elle est très heureuse, mais la raison pour laquelle elle est partie, elle disait, chaque fois que la CAQ fait quelque chose, on le fait mal, puis c'est tout le temps les équipes qui sont en dessous des ministres qui mangent des volets. C'est jamais le ministre qui est en place. Et là, je vais t'amener vers Annie Lafond, qui est la nouvelle patronne. Même affaire. C'est une fille qui a le même profil que Geneviève Guilbeault. C'est pas une fille qui a fait de la gestion. C'est pas une personne qui a étudié en administration, en économie, en gestion. C'est une fille de marketing. Et là, c'est elle qui prend le contrôle de la SAAC. Écoute ce qu'elle avait à répondre sur ses priorités. Je vous rappelle que ça fait un an qu'elle est en boîte.
Est-ce que vous avez déjà une idée en tête de quelque chose de précis que vous souhaitez mettre en place?
Pas actuellement. Donc, je vais prendre le temps de bien m'asseoir, là, étant donné que j'avais quand même un rôle au niveau de la vice-présidence service aux assurés. Donc, je vais prendre le temps là, avant pour ne pas arriver avec des annonces qui sont précipitées et qui ne seraient pas réfléchies.
On ne l'a pas briefé, puis moi, j'entends une personne qui est terrorisée par le nouveau poste qu'on vient de lui donner parce que la soupe est extrêmement chaude puis elle ne veut pas se mettre dans l'embarras. Mais ce qu'elle aurait dû répondre, Mme Lafond, c'est rétablir la confiance envers la SAAQ. Remettre de l'ordre dans l'équipe pour voir qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, puis essayer de changer les choses qu'on aime peut-être un peu moins. Elle n'a pas voulu se lancer dans des priorités parce qu'on ne l'avait pas préparé d'avance. C'est un peu gênant de la part d'un gouvernement.
Ben, regarde, moi, je t'avoue qu'il y a une partie de ta réponse que j'aurais recommandé de faire parce que la dernière chose que tu veux, c'est qu'un PDG, en arrivant, s'engage dans des promesses alors qu'il n'a pas eu le temps de rencontrer au minimum les équipes de haute direction. Tu sais, tu me dis, oui, elle a été vice-présidente, c'est vrai, mais quand tu arrives comme PDG, ton rôle n'est pas nécessairement le même. Alors moi, qu'elle prenne un moment pour établir un plan de rétablissement, puis qu'elle se prenne une couple de jours pour rencontrer des gens, honnêtement, ça me convient assez bien. Puis je te dirais que la période estivale, le moment de la nomination, Moi, ça me va si elle prend jusqu'au début du mois d'août pour faire ça. La commission Galland va revenir après l'été, puis on va avoir de nouvelles réponses. Et moi, je m'attends à ce que la SAQ ait des réponses pour nous. Il y a une chose, par exemple, qui est vraie, c'est entièrement raison. Il faut absolument que sa priorité numéro un, ce soit de rétablir la confiance du public, parce que c'est justement une institution, et quand on perd confiance en nos institutions, on a déjà dit tantôt ce que ça donne. Alors, Mme Lafond, pour moi, elle a un profil qui est intéressant. Pourquoi elle a un profil intéressant? Parce qu'elle vient du domaine privé, là où on peut pas nécessairement se permettre de faire des erreurs trop souvent. Elle a été vice-présidente à la transformation digitale à Beneva. Est-ce que ça a bien été, mal été? Je connais pas son historique, mais je me dis, elle a quand même un profil intéressant dans la situation actuelle. Elle est nommée par intérim aussi, donc l'intérêt de la nommer par intérim, c'est que elle doit faire ses preuves rapidement, sinon quelqu'un d'autre va arriver à sa place. Quelqu'un qui est par intérim, temporaire, ça change très facilement. Mais donnons-lui quelques jours pour prendre connaissance de ce dossier, donnons-lui quelques jours surtout pour monter un plan d'action, parce que moi, ce que je veux, c'est un plan d'action qui est clair. Ce que j'ai envie d'entendre de la part de la SAQ, c'est de dire, voici la situation à l'heure actuelle, voici les aimants de surveillance qu'on met en place pour s'assurer qu'on ne dépense pas de façon ridicule sur nos projets actuels, voici l'état du budget à ce moment-ci, et voici les actions qu'on prend, A, B, C. Et à partir de là, on va nous informer au fur et à mesure du suivi. Ce qui manque à SAQ, c'est de la transparence.
Ben,
moi, à partir de ce moment-là, je vais être à l'écoute si on est plus transparent.
Ben, je suis un peu... De cet ordre-là, hier, Yannick et moi, on avait un genre de, ben, je dis pas un débat, mais moi, je le voyais plus comme, bon, je pense que cette femme-là a été pitchée dans un des plus gros asiles politiques qu'on a vécu au courant des dernières années. C'est des eaux qui sont houleuses. Tout le monde doit se baquer à l'intérieur de la formation. Personne ne doit vouloir se faire couper l'herbe sous le pied, perdre leur poste ou encore apparaître dans les médias comme la problématique de la SAQ. Donc, il y a des choses qui ne doivent pas se dire et tout. L'impression que ça me donnait, c'est plus une femme qui, j'espère que c'est comme ça que ça se passe, prend un pas de recul, regarde tout le monde pendant un laps de temps quand même considérable pour voir vraiment les comportements, qui fait quoi, comment ça se passe à l'interne. Et il risque d'arriver avec un plan concret. Par contre, s'il n'y a pas de plan concret, on passe à autre chose. Mais en ce moment, c'est pas de l'inquiétude. J'ai plus l'impression que c'est un plus gros bateau de rats qu'on pensait.
D'abord, bravo d'avoir le courage de le prendre, parce que je suis pas sûr que n'importe tout le monde s'embarquerait là-dedans en partant. Mais je pense que la réalité est quelque part en ce qu'on dit tous. Hein. Comme je le dis, je pense que oui, j'aurais aimé l'entendre dire. Je suis consciente de la perte de confiance, puis ça va être ma priorité absolue.
Mais Victor, je veux pas paraître cruel, là, mais moi je suis Geneviève Guilbeault, là, puis j'ai quelqu'un qui se présente devant moi qui dit, hey, tu sais quoi, patron, moi je peux faire la job. Puis tout ce qu'elle trouve à dire quand je dis, ok, mais c'est quoi tes objectifs dans cette job là, ben attends un peu là, je vais m'asseoir, puis je vais prendre le temps de vérifier qu'est-ce qui se passe, puis le, tu sais. Moi, ça me rassure pas. Je vois juste ça dans des jobs publics. Parce que dans des jobs privés, va voir la directrice générale pour dire, « Hey, patron, moi, je veux la job de vice-présidente. » Puis je dis, « Je vais juste regarder, je vais m'asseoir un peu, puis je vais regarder ce qui se passe. Puis après ça, je vais vous donner une idée de ce que je veux mettre en place. » Jamais dans le privé, ça, ce serait accepté, ce genre de réponse-là. Il y a juste dans le maudit public qu'on accepte ça, ces réponses-là de « Je vais m'asseoir, puis je vais regarder, puis je comprends que vous êtes journaliste, je veux des réponses sur mes objectifs, mes priorités. » Mais moi, j'entends une fille qui ne veut pas se mettre dans l'embarras. J'entends une fille qui n'a pas été bien briefée. J'entends la CAQ qui est en panique présentement. Puis les communicateurs de la CAQ ou les communicatrices de la CAQ ont complètement quitté le building.
C'est le fun parce que je m'ennuyais de débattre, Yannick, puis là, je suis obligé de pas être d'accord avec toi. Oui, c'est vrai, on va le dire, dans le privé, on n'aurait pas nécessairement réagi comme ça.
Jamais.
C'est vrai, c'est
jamais.
Possible que dans un poste de PDG. Attends une seconde, on rentre dans un poste de directrice PDG de la SAQ dans une situation de crise. En plus, avec des équipes à l'interne qui ont de l'information qu'elle ne possédait certainement pas comme VP. Je veux dire, si demain matin, elle dit « je vais faire A » et que finalement, elle change d'avis, on va tous lui tomber dessus.
Non, mais alors, moi, rétablir la confiance du public, Victor.
J'aurais aimé entendre cette phrase-là, mais entre toi puis moi, on aurait dit aussi que c'était creux en maudit, parce que la réalité, c'est que n'importe qui a suivi un minimum l'actualité dans les derniers mois, c'est qu'il faut rétablir la confiance du public. La question qui suit après, c'est comment vas-tu le faire? Puis sa réponse, c'est « je suis pas prête à vous répondre à ce moment-ci ». Donc, si elle est pas prête, OK, mais l'important, c'est qu'elle soit prête dans quelques temps, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois. Parce que si elle est pas prête dans 1 mois, là, on a un enjeu. En même temps, elle a été nommée par intérim, ce qui veut dire qu'elle a été nommée un peu dans l'urgence. Parce que, tu sais, rappelons-nous de la séquence aussi, là. Tout ça est issu du fait qu'il y a 2 contrôleurs qui ont dit à la commission Galland que M. Ducharme n'était pas intéressé par ce qu'il lui présentait.
Exact.
Il y a à peu près 1 mois. Là, en panique, le gouvernement a dit qu'il faut qu'on trouve quelqu'un. Tu connais-tu beaucoup de monde qui aurait pris la job à temps plein à ce moment-ci?
Mais en situation de guerre, avec les en situation de guerre, avec les salaires qui sont donnés dans la fonction publique, il y a beaucoup de gens qui auraient levé la main. Moi, ce qui me laisse présager, c'est que cette personne-là, qui a un profil marketing, a été choisie puis, parce que ça réglait un problème pour un certain temps. Puis peut-être qu'il y aura une grande administratrice qui arrivera dans quelques mois, quelques semaines, ou un grand administrateur. Mais dans ce cas-ci, je trouve que ça fait pouette-pouette. Vraiment. Si en théâtre
de
guerre...
rétablir la confiance. Là.
Si en théâtre de guerre... Si en théâtre de guerre, le général arrive, puis la guerre est pognée, puis on a besoin de quelqu'un pour essayer d'avancer au front, puis là, bon, il dit, « Hey, toi, tu veux être général, c'est quoi tes objectifs? Oh, attendez un peu, je vais regarder un peu l'étendue de ça, je vais
mais
vous revenir dans quelques
quelqu'un
jours. »
Mais t'aimerais pas mieux quelqu'un qui arrive, mettons, agressif en disant, « Ah, oh, on va faire ça, puis il fait rien. »
Je veux quelqu'un de méchant à sac.
Oui, mais tu sais, quelqu'un qui parle... Ouais. Puis qui bouge pas quand on parle des paroles versus ses actions.
Je veux quelqu'un de méchant à sac. Avec toutes les devoirs que la sac connaît, je veux quelqu'un de méchant.
C'est la différence entre le privé et le public, hein, parce que la réalité, c'est qu'au public, être méchant, c'est pas seulement une question d'efficacité. Genre, dans le public, on se permet toujours ça. Non, c'est que c'est dans le public, le client, c'est tout le monde. Et la machine, elle est grosse. Et les changements sont longs à se mettre en place parce que la machine, elle est lourde. Mais pourquoi elle est lourde, la machine? Parce que c'est la machine qui nous protège de trop de changements à un moment donné. Tu sais, l'agilité, ça vient aussi avec de l'instabilité. La SAQ, c'est une grosse machine. Puis rappelons-nous, avant tout, c'est quoi la SAQ? C'est un service d'assurance pour monsieur et madame tout le monde, basé sur un no-fault. Puis c'est de la sécurité routière parce que ça tue encore trop de gens. Alors, quand je te dis que la machine est grosse puis que le bateau il est lourd à tourner, là, c'est que si elle arrive avec toutes les solutions, là, tout d'un coup, après quelques mois, imagine la réaction des équipes internes. Elle doit aussi gérer tout ça. Alors, tu sais, j'ai envie de lui donner une chance. Je comprends, j'espère qu'elle va te faire changer d'avis, Yannick, parce que on va tous, dans le fond, être gagnants si elle a un plan d'action clair dans quelques semaines. Je suis convaincu que si elle arrive avec un plan d'action clair, tu vas être le premier à dire, bon, ben, finalement, elle a fait la job.
Oui.
Mais, tu sais, tu parles de rétablir la confiance. La réalité, c'est que la confiance, ça prend trois choses. La crédibilité, de la transparence, puis ça prend de la communication continue. Pour rétablir de la confiance, c'est ça la recette. Alors, est-ce que le fait d'avoir une personne en marketing, ça me dérange? La réponse est non. Mais, par exemple, il faut qu'elle communique bien et rapidement. Donc ça, là-dessus, il y a un bouton d'urgence qui est pesé. Est-ce qu'elle aurait dû répondre là? Regarde, on pourrait faire le débat pendant les trois prochaines semaines. La réalité, c'est qu'elle va devoir répondre à un moment donné. Et ça, là, son compte à rebours, il est commencé. D'après moi, au plus tard à la minute, il faut qu'elle arrive avec un plan d'action.
Il va falloir qu'elle se dépêche parce que la SAC est dans le trouble, la CAQ est dans le trouble. C'est une job à 310 063 $ par année. Et à ça, tu ajoutes des bonis, des primes et des frais de fonction. J'espère qu'elle ne patientera pas trop longtemps avant de nous parler de ses priorités. Hey, Victor...
Le ministre, seras-tu là au mois de septembre en passant? Ça, c'est une autre question, on pourra en parler. Hein?
Oui.
Commandement ministériel à venir? Oh, attendez, pas sûr, moi, ouais. Que Mme Guilbeault va encore être au transport à ce moment-là.
Ben, est-ce que les gars, moi, je nous book un rendez-vous, ça, c'est sûr.
Ça va lui prendre un gros portefeuille, Geneviève Guilbeault, parce qu'elle veut être sous les projecteurs. Elle, vraiment, elle va être dans la campagne pour devenir chef de la Coalition Avenir Québec. Donc, de se faire tasser dans un portefeuille plus petit, je ne suis pas sûr qu'elle apprécierait, là.
C'est là qu'on va savoir si le PM est content du travail qu'elle a fait ou pas. L'évaluation, elle s'en vient.
Puis tes vacances, comment ça se passe, Victor?
C'est super, mais c'est fini. Alors, vous voyez, moi, je suis à votre disposition, on va jaser. Ça fait une couple d'années que je dis à tout le monde, c'est fini l'été tranquille en politique. Puis là, avec une élection partielle le 11 août, ben, on va profiter du soleil, mais on ne sera pas nécessairement en vacances.
Salut, Victor!
Merci!
Allez, bientôt!
L'excellent Victor Henriquez, qui est analyste politique à qui on aime bien jaser. Non, mais moi, l'histoire là, des gros salaires à 300 000, 350 000 avec des bonus et tout ça, quand tu te présentes devant le journaliste, parle de tes objectifs, là, t'sais. Parle de tes objectifs, puis rassure la population. En même temps, est-ce que c'est des vieilles phrases creuses qu'on a été trop habitués à entendre dans les dernières années de la part des politiciens? Je le sais pas, mais du moins, tu regardes quelqu'un que tu ne connais pas, qui prend un organisme comme la SAAQ, qui est dans misère présentement, Pascal. Tu t'attends à ce que la personne arrive avec des solutions, là, assez rapidement. Dans le cas de Mme Lafond, comme Victor et toi semblaient le dire, on va y laisser quelques jours, quelques semaines, puis après ça, on sera peut-être un peu plus en mesure de se faire une idée.
Mais
à 350 000 par année, je pense qu'il y a des gestionnaires, hommes comme femmes au Québec, qui auraient pris la job demain matin.
Peu importe qui va ramasser cette panoplie de merde que la SAQ clique, puis la SAQ en ce moment... faut avoir un front de bœuf puis une colonne vertébrale, puis haut la main si on réussit à trouver une personne qui va peut-être même changer le cours de la prochaine politique pour les prochains mois.
Mais
si
c'est peut-être elle.
Si on voit quelqu'un là, qui est justement capable d'analyser, de prendre en compte, d'avoir de la transparence, de communiquer avec les concitoyens et les citoyens, puis remettre peut-être un peu de paix puis d'alignement dans tout ça, peut-être que ça va donner un exemple pour
mais
la
suite.
Mais
c'est peut-être elle. C'est peut-être elle. C'est juste qu'elle n'a pas un profil de gestion. C'est une fille de marketing. C'est une fille de communication. T'sais, Geneviève Biron, moi, j'aimais beaucoup sa candidature parce que c'est une femme qui est une grande administratrice qui a été dans le domaine privé pendant des années et des années. Elle est déjà indépendante de fortune, puis pouf, on lui donne le rôle de Top Gun en santé. J'aimais beaucoup le profil, ça me rassurait. Dans le cas de Mme Lafond, les preuves restent à mettre en place.
On fait une toujours quelque part.
Exact. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais dit quand on m'avait embauché comme laveur de vaisselle dans un petit café dans le vieux port. J'avais 14 ans, puis il me dit « C'est quoi ton expérience? » J'ai dit « J'en ai pas. Pourquoi je t'engagerais? » Parce qu'il faut que je commence quelque part pour avoir de l'expérience, monsieur. Ben, j'ai l'impression qu'elle a répondu à la même affaire à Geneviève Guilbeault, puis Geneviève Guilbeault a dit « Engagé! » Marceau, le